Dieu, merci Seigneur pour ce merveilleux moment de louange, d'adoration. Et j'aime à le dire, il est important pour nous que nous puissions prier pour nos chanteurs, nos musiciens. Il y a un combat qui se mène même quand on commence à chanter. Je crois que alors qu'on est en train de louer et adorer le Seigneur, il peut se faire des guérisons, il peut se faire de belles choses parmi nous. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je voudrais rapidement entrer dans le vif du sujet avec vous. J'avais vraiment à cœur de pouvoir parler d'une catégorie de croyants que l'on appelle habituellement les rétrogrades. Et croyez-moi, ce matin, il ne faut pas que vous pensiez que ce mot soit péjoratif. Lorsque je vais citer cette expression « chrétien rétrograde », mais je crois que c'est ce que le Seigneur voudrait bien nous dire en ce matin. Et je crois que le Saint-Esprit est au rendez-vous. Il va faire du bien.
Amen.
Alors qu'est-ce qu'un rétrograde ? Ah bien, le mot rétrograde, vous savez, la palisse n'aurait pas dit mieux, il vient du verbe rétrograder. Et quand on regarde le dictionnaire, le verbe rétrograder, il veut dire tout simplement revenir en arrière.
Regresser, excusez-moi.
Retourner à un stade antérieur. Alors, pour faire simple, un rétrograde, c'est quelqu'un qui retourne
à ce qu'il a précédemment connu.
Il retourne certainement à quelque chose qu'il avait abandonné.
Et dans le milieu chrétien,
rétrograde, c'est quoi ? C'est un croyant qui, à un moment donné de sa marche avec Jésus,
à un moment donné de sa marche chrétienne, c'est quelqu'un qui s'est arrêté pour retourner en arrière.
Et c'est certain, chrétien rétrograde ne se voit pas comme ça au premier coup d'œil.
Pas me dire, tiens, lui, c'est un rétrograde. On ne peut pas le voir. Ce n'est pas si évident que ça.
Mais généralement, un rétrograde, c'est vrai qu'il a petit à petit abandonné
sa piété avec Dieu.
Il n'a plus d'enthousiasme pour lire la parole de Dieu. Avant, il courait pour cette rencontre avec le Seigneur à travers la parole de Dieu.
Mais il n'a plus cet enthousiasme.
Un chrétien rétrograde, c'est quelqu'un qui n'a plus cette passion pour prier Dieu.
Vous savez qu'on peut prier Dieu d'une différente façon.
Il ne faut pas attendre d'être dans un cadre pour prier Dieu.
Je peux prier Dieu sur ma douche,
sous ma douche.
Je peux prier Dieu dans mon lit.
Amen. Et c'est avoir ce contact avec Dieu, cette communion constante.
Mais le chrétien rétrograde, il n'a plus.
Eh bien, cette ferveur au niveau de la prière. Puis disons-le, un chrétien rétrograde, de manière générale,
petit à petit, il s'éloigne de la communion fraternelle.
Sa place, sa chaise,
si tant est qu'on ait une chaise ou une place.
Avez-vous une place ici?
On peut s'asseoir devant, s'asseoir derrière, etc.
C'est le même Seigneur qui est devant, derrière, vous l'avez compris ça. Mais vous m'avez compris aussi quand je vous dis qu'un chrétien rétrograde, c'est quelqu'un dont la place est vide.
Et j'ai envie de dire, la place est vide. Au niveau du cœur du Seigneur. Le Seigneur n'entend plus sa voix dans l'Assemblée des Saints.
Mais je vais même plus loin avec vous. Paradoxalement, un chrétien rétrograde, c'est quelqu'un qui aussi a bien peut-être assis à toutes les réunions.
Mais intérieurement, il le sait.
Spirituellement, tout est sec.
Et c'est pour ça qu'on a eu raison ce matin de chanter. Seigneur, viens ramener ton feu.
Seigneur, viens et raviver cette flamme.
Et si nous sommes là, c'est parce que cette flamme est bien présente.
Et peut-être ce matin, tu reconnais que ta flamme est étiolée. Elle est comme un lignon qui fume encore.
Il y a encore espoir, mon frère, ma sœur.
Parce que le message que Dieu nous laisse ce matin est aussi un message d'espoir.
Oui, on peut avoir l'apparence d'un chrétien.
Et puis intérieurement, rétrograder dans bien des domaines sur le plan spirituel.
D'ailleurs, Jésus a su le dire à une église,
c'est l'église de Sardes.
C'est un premier texte que je vous propose de lire, Apocalypse chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 2.
Apocalypse chapitre 3, verset 1 et 2. Jésus lui-même va parler aux différents anges de différentes églises qui se trouvaient dans l'Asie mineure.
Et il s'adresse cette fois-ci à l'église de Sardes et écrit à l'ange de l'église de Sardes,
Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles.
Jésus qui parle, il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Mais toi comme moi, tu sais que tu es mort.
Il donne ce conseil et cet encouragement, sois vigilant.
Et affermis le reste qui est prêt à mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu.
En fait, le rétrograde, c'est celui qui
est quelque part n'entretient plus sa foi.
Il se laisse mourir, spirituellement parlant, vous l'avez compris, à petit feu.
Et comme un peu aussi le dit l'auteur du livre d'Hébreux, là aussi c'est notre texte, ne le cherchez pas, je vous le cite juste, Hébreux chapitre 10, les versets 38 et 39, il nous dit, « Et mon juste vivra par la foi.
Mais s'il se retire,
mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Mais il est dit, « Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce matin, si je suis venu avec vous, mes frères et sœurs, c'est parce que nous voudrions entretenir notre foi pour ne pas nous laisser appesantir par les souffrances, par les difficultés, par les attaques même de l'ennemi. Il y a tellement d'ennemis en face de nous.
Mais nous avons le plus que vainqueur avec nous. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ qui nous a promis
qu'il nous mènerait jusqu'au bout du voyage. »
Le Seigneur est à la porte. Bientôt il viendra faire la différence entre les justes et les injustes, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et nous voudrions ne pas être confus sur là, mais décoller littéralement et partir à sa rencontre.
Amen, frères et sœurs.
Concernant le mot rétrograde, regardez-le, vérifiez-le,
vous ne le trouverez nulle part dans la Bible. Depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, il n'y a pas ce mot-là.
Et comme je l'ai dit en tête en introduction, souvent dans la pensée des gens, c'est un peu péjoratif.
Mais au fait, ce nom il a été utilisé pour quelque part désigner l'oncle chrétien qui a fait marche arrière dans sa vie chrétienne. Et nous, on l'a compris, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.
C'est, frères et sœurs, un fléau qu'il nous faut, avec vigilance, repousser, refouler, combattre. Il ne faut pas laisser cette apesanteur, ce relâchement nous donner à nous arrêter. Nous sommes en marche.
J'aime à le dire, ce n'est pas une course de 100 mètres,
mais c'est plus une course d'endurance.
Et ce n'est pas la Bible qui le dit. On dit souvent, celui qui va aller loin, il faut qu'il ménage sa monture.
Mais on a besoin, sur le plan spirituel aussi, de comprendre qu'on a besoin de l'action du Saint-Esprit, la grâce de Dieu pour aller jusqu'au bout du voyage.
Il nous faut ne pas nous relâcher. Il ne faut surtout pas nous arrêter, encore moins nous asseoir sur le bord du chemin,
mais reprendre notre course. C'est par la grâce de Dieu. À plusieurs, reprendre leur course ce matin.
Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Tu as eu raison de venir ce matin.
Vous pouvez dire à vos voisins,
tu as eu raison de venir ce matin.
Voilà, le Seigneur t'aime.
Oui, dis-lui, tu as raison, mon frère, tu as raison de venir.
Ennemi, repose-toi, tu es fatigué. Ça a été très dur ces derniers mois.
Repose-toi, reste, ne viens pas à l'église.
Vous savez, frères et sœurs,
pourquoi le diable s'acharne tellement alors? Merci Seigneur, ici en France, on ne connaît pas pleinement la persécution, quoique, mais elle est encore insignifiante par rapport à d'autres pays.
Et je vois l'acharnement du diable à pouvoir détruire les lieux de culte, à pouvoir les fermer.
Et peut-être que d'ici quelques années, c'est ce que nous allons vivre ici en France.
On ne sait pas.
Le confinement était comme un clin d'œil.
Mais il y a des églises, et même des chrétiens de nos frères et de nos sœurs d'autres pays,
où ils sont plus persécutés. Ils sont depuis des années et des décennies privés.
Le lieu de culte.
La Bible dit qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble.
C'est là que tu lui réponds la bénédiction.
Vous avez vu encore dimanche dernier, le prédicateur qui vient, le Seigneur lui parle à travers un don spirituel.
Dieu parle parmi nous.
Et il est capable de bien interpeller un cœur.
Mais jamais pour nous écraser,
jamais pour nous amoindrir,
mais pour nous donner aller de l'avant.
Mon fils, allez, va de l'avant, avance.
La dernière commence à faire ses premiers pas.
Au départ, elle tombait.
Et puis, on se relève et c'est repart plus belle.
Surtout elle.
Ce matin, je voudrais vraiment qu'on voie ensemble quelques causes.
Quelques causes qui peuvent amener un chrétien à rétrograder.
Très rapidement, la première cause qui peut amener un chrétien à rétrograder, c'est l'incompréhension de l'évangile, la parole de Dieu.
Vous savez, il y a pas mal de juifs, de contemporains, de Jésus qui ont suivi ce dernier, même la Bible nous dit que des foules entières allaient suivre Jésus jusque dans les déserts. Ce qui sortait de la bouche était un parfum des cibles qui venait du ciel. Une véritable nourriture. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais ce qu'on constate, c'est qu'un bon nombre d'entre eux ne comprenaient pas toujours. À l'époque plus juste, n'adhéraient pas toujours à ce que Jésus disait. Et c'est là où ça posait problème. Et beaucoup, à bien de contemporains au Seigneur Jésus, en cours de route, alors qu'ils se présentaient comme étant disciples de Jésus, ont arrêté de suivre le Seigneur Jésus. Et j'en ai pour preuve Jean chapitre 6, et je vous propose de le lire avec moi, Jean chapitre 6, du verset 60 jusqu'au verset 66. Regardez. Alors il aurait fallu lire tout le chapitre 6, parce qu'il nous est dit à un moment donné, Jésus a expliqué, bien sûr, sur le plan spirituel, qu'ils avaient besoin de se nourrir de sa chair et de boire de son sang. Alors quand les gens ont compris, ils ont entendu ça, ils ont dit « Wow. » Et regardez ce qu'il dit, ensemble nous allons le lire, Jean chapitre 6, verset 60, « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. » Autrement dit, quand il avait dit de manger de sa chair et de boire son sang, c'était pas sur le plan humain qu'il fallait le prendre. Tout ce qu'on comprit, c'est sur le plan spirituel. Jésus continue et dit, « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui étaient même celui qui le livrerait. Dès le commencement, il savait qu'il était Judas. Il savait qu'il le connaît ce matin. C'est pour ça, soyons tranquilles, soyons à la paix. Il sait ce que tu passes, mon frère, ma soeur, comme difficulté. Il connaît tout. Chut. Il n'a pas expliqué tout au Seigneur, il sait. Voilà. Et il ajouta, toujours Jésus, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et la Bible nous dit, Jean 6, verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. On est en plein sujet. Quand il les a dit, ses disciples se retirèrent. Ils se retirèrent. Ils rétrogradèrent. Mais si c'est comme ça, si c'est aussi compliqué que ça, nous, on arrête ça avec le Seigneur. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Que Dieu nous garde d'une telle décision, d'un véritable suicide spirituel. Et d'ailleurs, Jésus a déjà révélé quelque part cette sorte de croyant à travers une des paraboles qu'il a citées, la parabole du semeur. Regardez quand il est dit dans Matthieu chapitre 13, verset 19. Je vous cite pas simplement des versets pour que vous puissiez les relire tranquillement chez vous. Alors notez-les. Merci Seigneur pour la technique. Vous avez tout projeté derrière mon dos. On lit ensemble. La Bible nous parle. C'est Jésus qui parle de cette parabole. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Et quand Jésus dit lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, là aussi, il faut comprendre, ce qu'il a voulu dire quand il dit l'homme écoute la parole et ne la comprend pas, non pas que de manière intellectuelle, il ne pouvait pas comprendre la parole, parce que là, ce serait la justice. Mais il faut plutôt comprendre cette première partie de verset de la manière suivante. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et n'y adhère pas totalement, et ne l'accepte pas, et ne la refuse pas. Parce qu'il y a des choses, quand on lit la parole de Dieu, qu'on n'accepte pas forcément. Ah, ça, je suis d'accord. Mais le verset suivant, non. Ah non. En plus, il parle de pardon. Pas question de pardonner un tel bonhomme. Ou une telle femme. Quelqu'un dit amen, je ne sais pas pourquoi. Vous comprenez? Il faut écouter, mais aussi l'accepter et la recevoir. Je l'ai déjà dit, je vous ai déjà donné ce témoignage une fois j'étais en entretien. Alors, ce n'est pas ici, rassurez-vous. Et j'étais devant une jeune sœur qui voulait aller plus loin avec le Seigneur, elle voulait se faire baptiser. Entre-temps, j'avais appris de par sa maman qu'elle, pendant plusieurs mois, elle vivait en concubinage avec quelqu'un. Alors gentiment, dans le bureau, on est en tête à tête, je lui dis, tu veux aller plus loin,
oh oui.
Elle avait déjà annoncé la chose même sur Facebook à tous ses amis. Mais j'ai dit, mais il faut d'abord que tu règles quelque chose.
Elle dit, pourquoi? Oui.
J'ai appris que tu vis en concubinage avec quelqu'un. Mais ça, c'est pas conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai pas dit, frère et sœur?
Je ne sais pas si elle ne voulait pas me griffer à ce moment-là.
Elle n'a pas du tout aimé.
Elle n'a pas aimé la parole que je lui ai dit de la part du Seigneur. Parce que nous, en tant que pasteurs, nous sommes tenus, et tous les prédicateurs, de dire, non pas ce qui nous plaît, non pas ce qui va flatter l'auditoire, mais ce qui va nous permettre d'être debout lorsque Jésus-Christ reviendra sur les nuits. Et on a besoin, avec beaucoup d'amour, je vous assure, avec beaucoup de tendresse, de dire la vérité aux gens. Mais la dire avec fermeté, on ne peut pas tergiverser, on ne peut pas négocier avec le péché. Et j'ai dit à cette jeune fille, il faut que tu choisisses.
Je n'ai même pas eu le temps de lui dire.
Elle m'a dit, mais tu es en train de me dire, il faut que je choisisse entre mon copain et Jésus.
J'étais même étonné.
J'ai dit, quelle clairvoyance. J'ai dit, c'est exactement ça.
Et là, la jeune fille, avec un regard tout fâché, s'est levée. Elle a dit, mais c'est pas comme ça. Et on ne l'a plus jamais revue.
Vous comprenez?
Il y a des gens, ils ne comprennent pas la parole. Parce qu'ils ne veulent pas l'accepter comme il se doit, avec douceur et surtout avec humilité. Regardez ce qu'il dit dans Jacques chapitre 1, verset 21. Jacques chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Et ce matin, c'est cette attitude que nous devons avoir vis-à-vis de la parole de Dieu, la recevoir avec douceur. Il y a une autre version qui dit d'accueillir la parole avec humilité.
Je pense que ça on comprend mieux en parlant de cette façon-là.
Oui, recevoir la parole avec humilité.
Si je suis orgueilleux et je reste sur mes positions, je pense qu'on négocie pas la parole de Dieu. Mais quand elle est entendue, quand elle est lue, quand vous la lisez,
recevez-la avec douceur, et alors elle produira son fruit de bénédiction et de grâce. Alléluia, dans nos cœurs, que Dieu soit béni.
Voilà une première cause. Personne qui, tout feu, tout flamme au départ, et puis il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'à un moment, ils ont été contrariés, parce qu'ils n'ont pas compris
l'évangile de Jésus-Christ. Et ces gens-là, ils sont devenus, à un moment donné, nos ennemis.
Ça me rappelle ce qu'a dit l'apôtre Paul à une église qui se trouvait en Asie mineure.
Et il a dit, mais je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité. Celui qui aime la vérité suivra Jésus jusqu'au bout. Et la Bible, c'est Jésus lui-même qui dit, ta parole est la vérité. C'est notre repère.
Ne pas donner mes idées, les mélanger et devenir spirituellement un samaritain.
Mais nous voudrions être potentiellement des fils et des filles du roi des rois et du Seigneur des Seigneurs.
Une autre cause, vous voulez en connaître une autre? Les plaisirs et les séductions du monde. Et pour donner un exemple, j'ai pensé à Démas. Qui connaît Démas?
Pour faire plus simple, qui ne connaît pas Démas?
Ben on va juste lire le peu qu'on sait sur cet homme, 2 Timothée chapitre 4, versets 9 à 10. Viens au plus tôt vers moi, c'est l'apôtre Paul qui écrit à ce jeune serviteur de Dieu, Timothée. Et il avoue dans ce qui est considéré comme le dernier courrier de l'apôtre Paul avant qu'il se soit bien fait tuer, qu'il soit exécuté, puisqu'il a été coupé, raccourci de la tête. C'est ce que nous raconte l'histoire. Et il dit, il rajoute au verset 10, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie.
Et Tite en Dalmatie.
On n'a pas beaucoup d'informations sur Démas, ce que l'on sait. Et il me semble-t-il, on le voit autre part, cité dans notre épître. Démas était un disciple, potentiellement un disciple de Jésus-Christ, mais aussi un collègue. Il travaillait, il était dans le ministère, aux côtés de l'apôtre Paul. Et puis on voit qu'à un moment donné, ce Démas, il a commencé, peut-être à cause des difficultés que rencontrait l'apôtre Paul, ou que lui-même a personnellement rencontré, je ne sais, on n'a pas plus d'explications, mais cet homme s'est laissé petit à petit tenter,
séduire par les séductions de ce monde.
Et puis il faut peut-être le supposer, à un moment donné, il a laissé quelques compromis venir entrer dans son cœur. jusqu'à ce qu'à un moment donné, pof, du jour au lendemain, comme ça,
il a tout abandonné.
Il abandonne l'apôtre Paul.
Il abandonne sa foi.
Il abandonne le Seigneur Jésus. Mais je voudrais vous dire quand même que
je ne pense pas que l'on devienne rétrograde du jour au lendemain comme ça.
C'est à mon sens un long processus.
Vous savez, quelquefois, le diable a l'impression qu'il ne nous fait rien. Mais au loin, il sème ses graines.
Il met bien son venin petit à petit dans notre marche pour à un moment donné nous happer.
Et c'était le cas de ce fameux Démas
qui petit à petit s'est laissé séduire par les choses du monde. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des choses qui sont plaisantes dans ce monde,
mais il y en a qui sont coupables.
Il y a des séductions qui sont coupables et qui, au lieu de nous approcher du Seigneur, nous en éloignent.
On a besoin, avec la parole de Dieu, de veiller à ce qui pourrait être un perchoppement sur notre route, et entre autres les séductions, l'amour même du monde. Alors on est dans le monde, a dit Jésus, c'est vrai, mais il a demandé à son Père de nous préserver de l'esprit du monde. Regardez ce qu'il est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 2. On est quelques-uns comme ça à vous donner Colossiens chapitre 3, verset 2. La Bible nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Un autre passage, Jacques chapitre 4, verset 4. Alors là, Jacques, il est un petit peu plus hard.
Il dit « Adultère que vous êtes !»
Oups. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
On ne peut pas tenir le monde d'un côté et tenir Dieu de l'autre côté.
On va à un moment donné être écartelé.
Pourquoi? Parce qu'ils sont aux antipodes et ils s'écartent. Plus on s'approche, plus on marche avec le Seigneur, plus on s'éloigne du monde. On est toujours dans le monde. Il y a des choses que l'on peut faire, que l'on peut vivre et qui va bien réjouir dans notre cœur, ça c'est clair.
Mais il y a des choses qui sont coupables et on s'en éloigne parce qu'on n'est plus intéressé par ces choses-là. On est intéressé par la personne de Jésus.
1 Jean chapitre 2, versets 15 et 17.
15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Que Dieu nous aide à rester fermement attachés à lui, et que jamais les séductions de ce monde, qui sont éphémères, et qui au final nous éloignent loin de Dieu, ne puissent pas venir nous atteindre, mais que nous puissions avoir toujours dans la pensée et en vision le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ.
Voilà encore une autre cause, les plaisirs et les séductions du monde. Mais il me faut aussi parler, bien sûr, des persécutions. Vous parlez également des souffrances qui sont occasionnées par notre foi en Dieu. Suivre Jésus nécessite une part de souffrance de notre part.
Là j'aurais aimé entendre un amen. La vie chrétienne est aussi malheureusement, bien heureusement, jalonnée aussi bien de souffrances et d'épreuves.
Je dis bien heureusement parce que ces souffrances et ces épreuves sont voulues de Dieu et même vont contribuer à fortifier notre foi et nous donner d'être encore plus que vainqueurs jusqu'au bout du voyage. Je l'ai déjà dit ici en ces lieux, je pense que ça m'a marqué toute ma vie, un prof de français qui au milieu de son cours, elle savait que j'étais chrétien, a crié tout fort devant tous, « Joël, si tu te décides à suivre ce livre en parlant de la Bible, eh bien, tu vas souffrir. »
Je dis, waouh, vous savez, les gens sont clairvoyants.
Et il y en a, ils ne veulent pas s'engager avec le Seigneur parce qu'ils savent
ce que cela va entraîner.
Elle avait raison. Oui, il y a une part de souffrance qui nous incombe. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 4 et le verset 1, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. J'ai un autre passage aussi de Timothée, chapitre 1, verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Souffrir pour l'Évangile, c'est quelquefois, sous la poussée du Saint-Esprit, Dieu nous pousse à parler à quelqu'un du Seigneur, et puis en face de nous, il y a quelqu'un qui se moque de nous. Alors là, on a un petit peu l'air bête, et surtout quand il se moque de nous devant d'autres camarades. Mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. On s'est moqué du Seigneur. On lui a raillé, on lui a fait plein de choses. Et nous, on n'aurait pas aussi à participer. Petite partie de souffrance. C'est important de réaliser ces choses. Vous savez, certains chrétiens veulent les bénédictions, et que les bénédictions. Mais quand il faut aussi souffrir, il n'y a plus personne.
Ah non, Seigneur, ce n'est pas possible.
Comment je vis ces choses? Et si tu savais ce que le Seigneur avait vécu. Une amie maghrébine, qui était musulmane aussi, et de fil en aiguille a été intéressée pour connaître la Bible. Et on passait des bons moments ensemble. Et plus elle venait on avait des petits groupes, on était encore étudiants à l'époque, un petit groupe universitaire, on partageait la Bible, et il y avait des inconvertis qui venaient, d'autres étudiants. Et cette étudiante, maghrébine, découvrait la Bible. Une enfant qui buvait la parole de Dieu. Extraordinaire. Elle avait reconnu que la parole de Dieu était vraie. D'ailleurs, elle m'a dit un jour, tout triste, elle est venue me voir. Elle m'a dit, écoute Joël, maintenant je suis plus que convaincu, la Bible, c'est la vérité. Elle a même été plus loin, elle a reconnu Jésus comme le Fils de Dieu. Mais elle m'a dit, par contre, Joël, je dois te dire quelque chose. Je ne veux plus continuer sur le chemin de la foi.
Ah bon, pourquoi?
Elle m'explique que si elle choisit Jésus ouvertement, eh bien, elle aura des représailles au niveau de sa famille qui est musulmane. Et il fallait voir le visage de cette personne toute triste. Je veux croire, je l'ai perdu de vue. Bien que un jour elle se ressaisira et elle comprendra que même dans nos souffrances, le Seigneur il est avec nous pour nous donner d'être victorieux. Mais ce jour-là, elle avait choisi quelque part de rétrograder. Elle qui commençait si bien, mais qui s'est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'elle a eu peur de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Pourtant, pour hériter de Dieu, la vie éternelle, mais aussi le paradis, il nous faut accepter de souffrir. Et Romains chapitre 8 et le verset 17 nous dit la chose suivante. Romains chapitre 8, verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et il rajoutait, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La Bible va plus loin, souffrir pour Jésus est considéré comme une grâce devant Dieu. Est-ce que vous savez ça?
Les amens ne sont pas convaincants là.
je vais vous lire Philippiens chapitre 1 verset 29, on va le lire même ensemble. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Alors quelle que soit la souffrance liée à votre foi, quelle que soit la raillerie qui est en face de vous, quel que soit même un jour quelqu'un est venu et il m'a dégainé un couteau, peu cher. Alors je lui parlais de l'amour du Seigneur. Puis il a commencé à me lacérer, la chemise commençait à déchirer. Heureusement, il voulait m'égorger. On a compris que ce n'était plus le bonhomme qui était en face, il y avait quelque chose d'autre. Et à ce moment-là, le parlement est sorti. Et il y avait un autre frère qui était aussi à côté de moi. Ensemble, on s'est pas dit, on va parler en langue. Paf, c'est sorti. Le gars est resté paralysé. Il a dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il ne peut pas avancer. Et nous, gentiment, on recule. Et ça s'est terminé comme ça. Persécuté, bafoué, raillé, quel honneur. Un jour, le Seigneur sera révélé, reconnaît ceux et celles, alléluia, qui ont été inébranlables, même face à la persécution, et que Dieu nous garde de rétrograder à cause des souffrances et des persécutions.
Une autre cause, très rapidement, ce sont les fausses doctrines. Et Dieu seul sait combien de chrétiens rétrograde à cause des fausses doctrines. Il y a toutes sortes de choses. Internet, c'est très bien. Mais, frères et sœurs, je vous encourage avant tout à approfondir la connaissance de la parole de Dieu. Afin que lorsque vous serez confrontés à différentes prédications, à différentes doctrines exposées au travers d'Internet ou les réseaux sociaux, à bien vous puissiez comparer ces choses avec la parole de Dieu. Le problème, c'est qu'il y en a qui connaissent très peu la parole de Dieu. Et ils apprennent tout au travers à bien de docteurs.
Malheureusement, il n'y a pas que des bons docteurs. Il y a des faux docteurs.
Il y a des faux prophètes.
Aujourd'hui, c'est à la mode, les faux prophètes. Tout le monde annonce le retour du Seigneur, tout le monde annonce la fin du monde, tout ça, etc. Des faux prophètes et des faux docteurs, il y en a de plus en plus. Mais c'est à nous de veiller. L'apôtre Paul dit 2 Timothée chapitre 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais au contraire, il y aura la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Que Dieu nous garde aussi de toute forme de fable, mais que nous restions attachés à la parole de Dieu. Un exemple parmi tant d'autres, parlant des fausses doctrines, il y a des gens qui mettent en avant, d'ailleurs ils écrivent des gros livres, et nous invitent à pouvoir entrer en contact dans le monde, avec le monde spirituel, au niveau des anges. Et ils donnent, comme dit la Bible, un culte, ils vouent un culte aux anges. Alors ils les catégorisent, ils font tout un sorte d'enseignements, frères et sœurs, ayons du discernement. Les anges, ce sont des réalités, Dieu nous les envoie, ils sont à nos côtés. La Bible dit qu'il fait en sorte qu'un ange campe à nos côtés pour nous garder, nous protéger. Mais jamais il nous a demandé de pouvoir entrer, de pouvoir même prier, nous adorer des anges.
C'est impossible. C'est pas ce que la Bible dit.
Un seul homme a essayé bien d'adorer un ange chez l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Et l'ange lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Adore Dieu. Adore Dieu seul. Pas question d'adorer les anges.
Mais si je ne connais pas ce passage, je vais me laisser à bien bobiner. Bien sûr, si nous voyons un ange, là, c'est extraordinaire, c'est beau à voir.
Mais pas question d'adorer la créature. Il faut adorer le Créateur seul. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. On étudie les commandements le mardi. C'est important de connaître la parole de Dieu. Un avant-dernier exemple de cause qui pourrait nous amener les uns les autres à peut-être connaître une vie de rétrograde. Ce sont quelquefois nos choix irréfléchis. Alors c'est un cas particulier, mais il y a quand même certains croyants qui, d'une manière délibérée, font des choix irréfléchis, insensés. Je parle de chrétiens. Et ça dénote quelque part, oui, qu'il y avait certainement des failles ou des problèmes de fondement. Et puis à un moment donné, ces personnes décident de faire des choses qui sont, sur le plan spirituel, suicidaires. On a un exemple, Judas. Judas qui a côtoyé le Seigneur de si près, c'était un apôtre. Même quand Jésus, dans Jean chapitre 13, a nettoyé les pieds de ses différents disciples, il a aussi nettoyé le pied, et donc les pieds de Judas. Un homme qui était si près du Seigneur Jésus, pourtant, à un moment donné, a fait le choix de passer un pacte avec tous les chefs religieux, et pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, ça correspondait à un mois de salaire. Un coup de folie. Et on voit bien qu'il avait un problème à régler, puisqu'il avait un problème de cupidité dans son cœur, qu'il n'avait jamais réglé. Et à cause de ça, par un choix irréfléchi, cet homme également a rétrogradé. Vous savez, dans le sud de la France, on a appris qu'il y a un pasteur qui a quitté son épouse, quitté ses enfants, il en avait plusieurs, pour aller vivre sa vie amoureuse avec une personne du même sexe que lui. Ses collègues pasteurs ont essayé de le raisonner et il a dit tout simplement qu'il assumait son choix sans aucun regret.
Vous comprenez quand je dis des fois, donc des choix irréfléchis, des fois tellement irréfléchis et même insensés qui semblent bien nous donner à vivre comme un non-retour. Un non-retour.
Regardez ce que dit la Bible dans Hébreux chapitre 6, versets 4 et 6. Hébreux chapitre 6, versets 4 et 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Verset 6. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent
à l'ignominie. Alors bien sûr, il faut bien comprendre ce passage. Il peut se faire, et certainement moi le premier, de connaître dans notre marche des moments où nous tombons, où nous chutons, mais de suite nous relevons. Mais un exemple comme j'ai donné précédemment, celui de Judas, c'est terrible. Il y avait comme un non-retour pour lui. Et il a essayé, il a eu pas mal de remords, pas mal de regrets, mais il n'a pas connu la véritable repentance. Et cet homme, vous savez ce qui lui est arrivé puisqu'il est parti, se pendre. Une dernière cause, et puis on va terminer par cela. On a parlé, bien sûr, de l'incompréhension de la parole de Dieu, on a parlé des plaisirs, des séductions de ce monde, on a parlé à l'inverse des persécutions et puis des souffrances occasionnées à cause de notre foi. On a parlé des fausses doctrines, on vient de voir les choix irréfléchis. Je voudrais terminer avec les blessures qui sont occasionnées par les frères et les sœurs dans la foi. Il ne faudrait pas qu'on passe à côté de ça. Vous savez qu'il y a des personnes, des chrétiens, chrétiennes, qui aujourd'hui ne sont plus dans les églises. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, dans leur marche avec le Seigneur, ils ont été comme heurtés, profondément blessés par d'autres chrétiens. Vous savez, quand c'est des gens de l'extérieur, on peut relativiser. C'est des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais les blessures les plus profondes, ça se trouve et ça se passe dans les familles. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Et ne formons-nous pas une seule et même famille ? Des paroles qui n'ont pas du tout été inspirées, des attitudes qui ont pu blesser, même heurter profondément, qui ont été finalement des pierres d'achoppement pour nos frères, nos sœurs. Et ça, Dieu le voit. On a besoin d'aimer le frère, la sœur, comme la prunelle des yeux du Seigneur. Jésus a dit que nous sommes comme la prunelle de ses yeux. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Regardez l'importance de celui qui est à votre droite et à votre gauche. Le respectez. Dans toute sa personnalité. Vous savez, on est précieux et unique dans le cœur de Dieu. Et on a besoin de veiller à cela. Parce que de toute façon, à un moment donné, le Seigneur lui-même va juger par rapport à toutes ces choses qui peuvent se faire au sein même de son Église. Regardez ce qu'il est dit dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34, versets 20 à 22. Il parle des brebis. Brebis grasses, brebis belles, brebis maigres. Et quand il parle de brebis, il parle de son propre troupeau. Il dit, c'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées. Je porterai secours à mes brebis, afin qu'elles ne soient plus au pillage, et je jugerai entre brebis et brebis. Frères et sœurs, ne jugeons pas. La seule dette que nous devons avoir à l'égard de nos frères et nos sœurs, c'est de pouvoir nous aimer les uns les autres. Et je sais que l'amour, et vous le savez tout comme moi, l'amour ne fait pas de mal au prochain. Que Dieu nous garde. Frères et sœurs, d'être une pierre d'achoppement pour nos autres frères et nos autres sœurs. Sachons avec l'amour, avec bienveillance, accueillir les gens, les aimer de tout notre cœur. Alors vous l'avez compris, on peut continuer comme cela et trouver d'autres causes. On n'a pas le temps ce matin. Je voudrais juste terminer avec une conclusion qui va s'exprimer par une question. Et cette question, elle est très importante. Quelle attitude le chrétien doit avoir à l'égard du rétrograde ? Et très rapidement, premièrement, et ma sœur l'a dit ce matin, la compassion. Waouh ! La compassion. Et quand on dit compassion, on parle d'amour, on parle de tendresse, on parle de bienveillance. Toujours regarder le frère ou la sœur qui est rétrograde avec amour et bienveillance. Si un jour on voit quelqu'un qui, depuis des années, on n'avait plus revu et qui revient, accueillons, frères et sœurs, comme le Seigneur l'aurait fait, accueillons cette personne. Elle a de la valeur, elle a du prix aux yeux du Seigneur. Vous savez, nos pensées ne sont pas celles du Seigneur. Et même, effectivement, nos suggestions, tout ça, frère, il faut tout ça mettre de côté et apprendre à connaître le cœur de Dieu. En lieu en place où on aurait peut-être catalogué telle ou telle personne, le Seigneur, lui, continuera à l'accueillir. Parce que Dieu nous aime, frères et sœurs. Il nous l'a déjà montré en donnant son Fils Jésus-Christ sur la croix.
Jésus n'a pas fait semblant de mourir, car il fallait un tel prix pour que nous soyons rachetés. Comprenons l'amour de Dieu et manifestons ce même amour à l'égard du frère, même le plus bas tombé, même le plus bas tombé. Je pense que le regard bienveillant, l'attitude d'amour du Père, a su rassurer le fils prodigue qui revenait à lui. Vous savez, vous connaissez cette parabole de Luc 15, où il nous est dit qu'à un moment donné, le fils prodigue, il rentre en lui-même, il dit « Allez, je vais rentrer chez mon père. » Alors, on lit ça facilement. Mais imaginez-vous la tension et puis la culpabilité qui venait de plus en plus s'alourdir sur ses épaules. Plus il s'approche, son cœur bat. Comment mon père va m'accueillir? Comment il va me recevoir? Et je crois qu'à ce moment-là, le regard du père, l'attitude du père, vous savez que c'est pas le fils prodigue qui est parti courir dans les bras de son père. C'est son père. Et je veux vous le dire, de cette histoire de Luc 15, le plus important, ce n'est pas tant les deux fils, c'est plutôt l'attitude du Père. Cette parabole est là pour nous rappeler l'attitude, le cœur même de Dieu. Qui quand il voit eh bien, celui qui avait rétrogradé, celui qui avait peut-être dilapidé toute chose et qui s'enterre de surcroît le cochon, voir de quelle manière cet homme qui était bien habillé court vers son fils et l'enlace. Je vois ce petit fils qui a même du mal à respirer et terminer sa phrase. « Oh Père, pardonne-moi, etc. » Mais il a été subjugué par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Oui, de la compassion et rien d'autre. Et puis je pense aussi à la prière. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 16, on a bientôt terminé. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché, qui ne mène point à la mort, qu'il prie. » Et Dieu donnera la vie à ce frère. Waouh ! Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Et ce péché qui mène à la mort et qui est incontournable, c'est bien sûr le blasphème contre le Saint-Esprit, mais ça c'est une autre histoire. Mais ce verset, la première partie de ce verset, nous invite à comprendre que par le biais de la prière, on est capable d'engendrer la vie, ramener la vie dans le cœur eh bien, d'un frère ou d'une sœur qui est rétrograde, que Dieu soit béni. On a parlé de la compassion, la prière, et je termine. Eh bien, il faudrait aussi parler d'une démarche, c'est le simple coup de fil, ou même aller voir ce frère ou cette sœur qu'on ne voit plus. Au lieu de juger et dire « Mais il est où ? Elle est où ? Etc. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, c'est toujours pareil, etc. » Mais pourquoi ne pas nous laisser inspirer par le Saint-Esprit qui est capable de nous donner peut-être une attitude, un comportement vis-à-vis de celui ou de celle qui est rétrograde. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être le coup de fil. « Bonjour, mon frère, ma sœur. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Et je vais te le dire, tu me manques beaucoup. » Une parole sans jugement. Quelque chose qui va rassurer, tranquilliser la personne en face et qui va lui permettre eh bien, de se rappeler que si eh bien, on peut avoir, nous, humains, une telle attitude, à combien plus forte raison Dieu, eh bien, il ne nous abandonnera pas, il ne nous rejettera pas. Frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un parmi nous, peut-être même dans cet auditoire, j'ai dit, hein, on peut être peut-être même assidu aux réunions et puis se reconnaître de l'intérieur. Sec, spirituellement parlant. Comme on l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, viens ranimer ton vœu. Ce matin, le Seigneur, il voudrait ranimer ton cœur, ta vie. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes? Est-ce qu'on peut demander au Seigneur sa grâce? Vous qui vous sentez concerné par ce message, sachez que Dieu vous aime. Et il veut vous aider à reprendre votre marche avec lui. Et pour cela, il faut tout simplement que vous le lui demandez, que vous approchez de lui et que par la foi, vous saisissiez encore la grâce qui se trouve auprès de Dieu. Là où le péché abonde, la Bible nous dit la grâce de Dieu a surabondé. Pour être regardé de différentes façons, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir ce que l'on va faire, comment on va réagir. Et ce matin, Dieu te donne une possibilité de pouvoir réagir. Alors qu'on a les têtes baissées, les yeux fermés, il y a peut-être quelqu'un ici dans cet auditoire, ou plusieurs, qui veut prendre cette victoire. C'est vrai, ma vie spirituelle, aujourd'hui, elle est en berne.
Je n'ai plus cet enthousiasme, et c'est peut-être par les épreuves, c'est peut-être par les difficultés, c'est peut-être par des luttes, par des combats, c'est peut-être même bien par une déception, par une blessure, peu importe. C'est peut-être même par un péché, peu importe. Tout comme le Fils prodigue, Dieu est là, les bras grands ouverts, prêt à pouvoir t'accueillir, mon frère, ma sœur. Et si c'est ton cas, alors je t'invite à pouvoir te lever à ta place, et dans le nom de Jésus, je vais prier avec toi, et je demanderai au reste de l'auditoire de pouvoir garder les yeux fermés, les têtes baissées, s'il vous plaît. Mais si tu as besoin de retrouver un renouveau avec le Seigneur, si tu as besoin d'un nouvel élan, le Seigneur veut te l'accorder par la puissance de son esprit ce matin. Oui, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Y aura-t-il d'autres personnes qui auraient besoin, alléluia, de la grâce de Dieu? Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Mais peut-être, alors que nous sommes là, les têtes baissées, les yeux fermés, s'il vous plaît, ne regardez pas. Il y a peut-être encore d'autres personnes qui ont besoin de marquer le coup et montrer au diable qu'il n'aura pas le dernier mot. Montrer aux séductions, montrer au découragement, aux blessures, qu'ils n'auront pas le dernier mot. Au nom de Jésus-Christ, oh Seigneur, ta grâce, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, ta paix, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, la paix de Dieu, t'inquiète pas, le Seigneur il est là, ne t'inquiète pas, il connaît ton cœur et il s'occupe de toi, ne t'inquiète pas Guy, ne t'inquiète pas, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je l'ai déjà dit, c'est son cœur qui parle. Il veut sortir de cette prison, sortir de ce carcan. Alléluia. Mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont là en souffrance et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Lève-toi à ta place. C'est un acte de foi que Dieu te demande. Tu vas retrouver ce goût à la lecture de la parole de Dieu. Tu vas retrouver ce goût. Tu vas reparler au Seigneur. Il va te revigorer. Il va te revivifier. Il va te donner à aller de l'avant. Tu vas courir. Tu ne vas pas seulement marcher, tu vas courir. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous qui êtes assis, vous qui avez les têtes baissées, les yeux fermés, continuez à prier. Commencez à prier pour certains. Alléluia, priez pour peut-être bien celui qui est à votre droite ou à votre gauche et qui s'est levé sans le toucher. Alléluia, priez, priez, prions les uns pour les autres. Confessons les péchés les uns les autres. Il y a un temps de réveil, il y a un temps de grâce, il y a un temps où le Seigneur veut se manifester. Alléluia. Nous voulons cette parole qui dérange. Nous voulons cette parole qui nous réveille. Nous voulons cette parole, alléluia, qui chamboule les œuvres des ténèbres. Ô Seigneur, ta grâce, ce matin, je te prie, Seigneur, de consumer ce qui n'est pas à ta gloire dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et qui peut être un point bloquant qui les empêche d'avancer. Seigneur, tu vas rompre les chaînes. Tu vas briser les chaînes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vas rendre libre. Seigneur, Père éternel, tu l'as dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre au nom de Jésus. Seigneur, tu vois cette tristesse, tu vois ces angoisses, tu vois ces dépressions, tu vois, Seigneur, Père mon Dieu, toutes ces séductions. Seigneur, tu vois les pratiques, tu vois les liens. Seigneur, tu coupes les liens, tu coupes les chaînes ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et tu libères, Seigneur, les captifs au nom de Jésus. Alléluia, prions, prions ensemble. Vous qui êtes debout, alléluia, priez, priez de tout votre cœur. Même on va faire quelque chose, on va se lever tous. On va prier de tout notre cœur, on va demander au Seigneur sa grâce. Alléluia, alléluia. Le Seigneur va ranimer le feu, mon frère, ma sœur. Il va te renouveler, il va te faire grâce. Il ne t'accuse pas à cause de tes péchés. Alléluia, il est le Dieu, alléluia, miséricordieux. Alléluia, qui est capable d'intervenir dans ta situation maintenant. Sèche tes larmes, il y a quelque chose de nouveau qui va se passer au nom de Jésus. Seigneur, passe dans les rangs, je te prie, glorifie-toi par la puissance du Saint-Esprit. Et Seigneur, Père mon Dieu, donne à mes frères et mes sœurs la victoire au nom de Jésus sur tout ce qui pourrait les empêcher d'avancer avec toi. Tu les aides à se relever et Seigneur, Père, à continuer la route, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé. Tu es ce chemin, tu es, alléluia, la route, Seigneur, qui nous mène jusque dans la vie éternelle au nom de Jésus. Nous lions les œuvres des ténèbres, nous brisons les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Nous refoulons, Seigneur, tout ce qui peut alourdir nos épaules au nom de Jésus. Père, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom au nom de Jésus. Seigneur, les œuvres du diable sont détruites. Tu es venu pour détruire les œuvres du diable au nom de Jésus. Seigneur, ton feu, ta grâce. Seigneur, oui, viens déranger nos cœurs par ta parole. Viens, Seigneur, Père mon Dieu, chambouler nos cœurs par ta parole. Viens, Seigneur, Seigneur Père, susciter la foi. Seigneur Père, nous enlevons toute forme de carcan. Seigneur, l'huile, l'onction vient briser le joug au nom de Jésus-Christ. Père, pour la gloire de ton nom. Et nous déclarons qu'il y a un seul et maître, alléluia, sur nos vies, sur nos cœurs. C'est Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Père, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Tous ceux qui se sont levés, viens Seigneur qu'on les visite. Viens te manifester, viens te glorifier. Seigneur, tu reviens bientôt. Et nous voudrions tous partir, par la grâce de Dieu, tous partir Seigneur, et être prêts pour ce saint rendez-vous, alléluia, que tu fixes à tes enfants au nom de Jésus. Seigneur, nous t'avons prié dans le nom.